Donc effectivement, Madame Laporte n'est pas Monsieur Chauffour, donc vous aurez rétabli dans le programme. Madame Laporte a fait des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, à Paris 1 peut-être, Panthéon-Sorbonne, oui. Elle est ensuite diplômée de Sciences Po et de l'École du Louvre. Elle est spécialiste à l'origine de la peinture dite classique. Mais elle a bifurqué ensuite... pour être aujourd'hui directrice des éditions de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais, depuis 2015, enfin depuis début 2016. Et auparavant, elle était directrice éditoriale sur le thème art chez Flammarion, chargée notamment des collaborations avec les musées. Donc elle était tout indiquée pour prendre son poste en 2015, enfin nommée en 2015 et reprise de poste en 2016. Et sa communication aujourd'hui intervient autour du thème de la préservation du patrimoine, de la mise en récit et de l'innovation. Et le cas du Grand Palais, Réunion des musées nationaux, est évidemment au cœur de votre présentation, puisque c'est votre employeur, à travers donc, l'exemple du Grand Palais et des ateliers d'art.
Voilà, on pense tout de suite au livre et donc au récit. Mais dans ce cadre-là, il y a deux activités qui sont deux ateliers d'art. L'atelier de moulage et l'atelier de calcographie, qui sont des activités beaucoup moins connues, et donc il nous a semblé intéressant de vous présenter voilà, plutôt ces sujets-là au prisme voilà, du sujet de la journée. Oui, très bien, merci. Donc ces deux ateliers sont des ateliers qui sont anciens, qui sont nés au moment de la Révolution, et qui ont rejoint le giron de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, donc l'ancêtre du Grand Palais RMN, dès la création de la RMN à la fin du 19e siècle. Donc ça faisait partie des missions traditionnelles de la RMN, au même titre que les éditions, les acquisitions, les boutiques et ensuite l'organisation d'expositions. Je vais aussi vous dire que par rapport au sujet de la mise en récit, j'ai essentiellement basé mon PowerPoint sur notre site internet des ateliers, et puis je vous en dirai un petit peu plus à la fin pour vous inviter à aller vous promener dans ce site, parce que pour nous, ça faisait vraiment partie de cette mise en récit et comment montrer nos activités, qui sont des activités un petit peu cachées et qui se répartissent en différentes typologies, et pour lesquelles voilà, il est très important de pouvoir montrer nos savoir-faire, puisque ce sont des lieux de conservation, mais aussi des lieux de production, et donc des lieux de conservation d'un patrimoine qui peut être matériel, mais aussi un patrimoine immatériel, puisque nos artisanes et nos artisans sont détenteurs de savoir-faire qui souvent sont devenus des savoir-faire rares, des savoir-faire de niche. Et pour nous, c'est un enjeu très important que de pouvoir communiquer sur ces savoir-faire et de pouvoir transmettre ces savoir-faire pour pouvoir voilà, renouveler le vivier d'artisans experts sur ces domaines. Donc je vais commencer par vous présenter les deux activités. L'atelier de moulage d'abord. Voilà, donc là, vous voyez le cœur de l'atelier, ses réserves. Donc, on est en plein dans les sujets de conservation, les sujets patrimoniaux. Donc, c'est une collection. Donc, l'atelier de moulage, lui, est né en 1794. Il est né avec le Louvre. La calcographie, c'est la même chose. Ce sont deux activités qui sont nées avec la naissance des musées. Il faut savoir qu'à l'origine, le Louvre était un lieu qui était dévolu aux artistes, qui avaient souvent leurs ateliers dans le Louvre. L'atelier de moulage a été conçu pour prolonger les collections d'antiques et pour les compléter, puisque à partir des originaux, on ne va pas forcément pouvoir aller voir les originaux en Italie ou dans les différentes collections. Et donc, il y a eu tout ce travail pour compléter, sachant que ces sculptures servaient d'une école du dessin aux étudiants pour travailler sur les canons antiques. Et puis, petit à petit, cette collection s'est enrichie puisque le goût a évolué. Donc, on a ajouté la Renaissance avec Michel-Ange, puis on a ajouté le goût pour le Moyen-Âge avec le 19e siècle. Et petit à petit, on est arrivé à constituer une collection qui court de la préhistoire pratiquement jusqu'à nos jours et sur tous les continents, hormis l'Océanie sur lesquels on est plus faible. Donc, c'est une collection de 6000 moules et modèles, donc qui prennent beaucoup de place, comme vous pouvez voir dans nos réserves, sachant que les moules sont les creux, donc c'est ce qui va servir à faire des tirages et faire des formes, et les modèles, on va dire que c'est en quelque sorte notre trésor, ce sont nos prototypes qui vont ensuite nous permettre d'avoir un référent, et le moule étant une sorte d'outil, de matrice qui va s'user au fur et à mesure des tirages, on ne pourra pas toujours retourner sur les originaux pour refaire des moules. Donc c'est vraiment ce trésor de guerre que constituent les modèles qui vont nous servir de référent. Et c'est ça qui constitue notre patrimoine qu'on va conserver très très précieusement. Donc à partir de ces moules, on travaille vraiment main dans la main avec les musées qui vraiment nous autorisent à aller faire des moulages sur les originaux. Donc c'est une particularité de nos ateliers que de pouvoir aller faire ces moulages sur les originaux parce que nos artisans savent préserver les originaux et ont une finesse de traitement qui va permettre d'avoir tout le détail nécessaire pour avoir de magnifiques tirages. Avec des tirages qui se déploient sur différentes catégories, on va faire ce qu'on appelle des tirages spéciaux, donc il y a un petit peu notre haute couture, qui sont tous les grands tirages à échelle 1. Donc on va pouvoir vous refaire une Victoire de Samothrace complète, une Vénus de Milo, un Apollon du Belvédère, pour voilà, parler des grands canons. Mais on a aussi dans la collection des esclaves de Michel-Ange, les deux tombeaux complets des Médicis, la Pietà de Michel-Ange, le Moïse de Michel-Ange. Voilà, donc ça c'est assez spectaculaire quand on réalise ces tirages. On travaille aussi beaucoup avec les musées, notamment Versailles et les Tuileries, dans un domaine de conservation préventive, c'est-à-dire que Versailles va rentrer les originaux qui sont dans les jardins et nous allons faire des moules et des moulages qui vont ensuite venir prendre place dans les jardins de Versailles, donc en faisant des tirages en résine chargée de poudre de marbre pour pouvoir protéger les originaux et les rentrer. Et puis à côté de ça, il y a une activité qu'on appelle les séries, donc qui sont des petites séries, et ce qui est vendu dans les librairies boutiques, notamment du Grand Palais RMN, donc vous avez peut-être vu au Louvre, à Orsay, voilà. Donc ça c'est, on va dire, la face immergée de l'iceberg, et puis ce qu'on connaît moins, c'est vraiment ce qu'on fait dans nos ateliers que je vous montre à l'instant. Donc là je vous montre Arnaud Briand, notre chef d'atelier, qui est meilleur ouvrier de France. Et donc lui, c'est vraiment lui qui préside à tout le développement de l'atelier de moulage et qui est en lien avec tous nos partenaires et qui veille vraiment à cette qualité exceptionnelle et qui va aussi travailler sur cette transmission auprès de ses équipes et auprès des plus jeunes. Donc je vous montre rapidement comment on va pouvoir se passer tout le travail sur ces grands modèles. Là vous avez une prise d'empreinte, donc vraiment on va travailler sur l'original, soit on se déplace sur site, soit les originaux viennent chez nous. Alors par exemple en ce moment il y a une grande sculpture de Champollion qui est à l'atelier, qu'on est en train de restaurer. Derrière on va faire une prise d'empreinte puis un moulage pour pouvoir là aussi mettre l'original à l'abri. Et parallèlement, l'atelier est encombré en ce moment. Alors vous avez peut-être vu que dans la station Louvre-Rivoli, les sculptures qui y sont habituellement avaient disparu. Donc ces sculptures, ce sont des moulages qui viennent de notre atelier et ils sont en ce moment dans l'atelier pour être restaurés, bichonnés. Et voilà, on a tendu des facsimilés avec des photographies en attendant. Mais voilà, c'est un travail qui se prolonge pour pouvoir perpétuer cette collection. Voilà, donc là derrière, vous avez une diapositive où on voit vraiment le moule. Donc ce sont des moules qui sont faits en silicone, donc on dépose des couches d'élastomère après avoir protégé la pièce, et puis ensuite on crée une chape qui va être en général en plâtre et qui va être armée selon le poids des pièces, soit avec des étés en bois ou parfois en métal. Puis une fois que le moule est fait, on va pouvoir créer la pièce. Donc ce qu'on fait à l'atelier même, ce sont des moules. On travaille essentiellement le plâtre. La grande spécialité, c'est de pouvoir travailler ni trop vite, ni trop lentement pour pouvoir aller déposer les couches de plâtre. Donc, on fait ce qu'on appelle, on travaille à l'imprimé. Donc, on va avoir une première couche de plâtre qui est déposée en essayant d'éviter les bulles et en allant vraiment dans tous les recoins, par exemple, de tous les drapés pour avoir une très grande finesse. Il faut savoir qu'on arrive à être à 2 microns en termes de reproduction, donc c'est-à-dire c'est à peu près la qualité d'une empreinte digitale par ces techniques-là, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Et ensuite on passe une deuxième couche avec du plâtre armé, avec une matière qu'on appelle la filasse, qui est une sorte de chanvre qui va renforcer la pièce. Et ensuite pour les pièces vraiment les plus lourdes, on va les armer encore en mettant à l'intérieur soit des pièces de bois, soit des pièces de métal. Ensuite, comme pour un gâteau, on va refermer le moule. On va attendre que ça prenne et ensuite on va démouler. Et la dernière phase, qui est la phase de finition, et donc là, qui est une phase très longue et qui suppose qu'on ait vraiment une science du modelé et une science du volume, voilà, quand on ferme les deux faces du moule, on enlève et il y a ce qu'on appelle les coutures qui sont tout du long. Donc d'abord, faire un moule efficace, c'est savoir envisager sa pièce de façon à ce qu'on ait le moins de coutures possible et qu'elle tombe aux bons endroits pour qu'on puisse ensuite aller travailler finement. Et une fois qu'on l'a sortie, on va travailler tout en délicatesse pour pouvoir enlever sans creuser et en ramenant du modelé quand il faut ramener du modelé. Voilà, donc c'est vraiment tout ce détail qui est travaillé chez nos artisans avec leur savoir-faire reconnu. Je vous ai glissé une petite incise, puisqu'on a beaucoup d'artistes contemporains qui viennent à l'atelier, qui travaillent avec nous, alors qu'ils viennent à l'atelier soit parce qu'ils sont inspirés par les collections, et c'est le cas de Prune Loury, donc je vous montre cette installation qu'elle a faite l'année dernière, donc qui s'appelait le projet Vénus. Donc elle a fait ça avec une gynécologue obstétricienne sur le sujet des femmes malmenées, maltraitées. Et elle est venue chercher à l'atelier toute une série de moules. Donc là, c'est des moules que vous voyez pour en faire une accumulation, une installation. Mais ces artistes viennent aussi travailler avec nous parce qu'il y a des savoir-faire qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et donc, on va vraiment travailler avec eux sur leurs pièces. Donc voilà, c'est la collection, donc que ce soit des modèles ou des moules, mais aussi derrière les savoir-faire qui viennent chercher. Et parmi ces savoir-faire, il y a aussi des savoir-faire innovants, donc là, qui vont aller chercher du côté des nouvelles technologies. Notamment la 3D, qu'on travaille aussi beaucoup avec l'agence photo de la RMN, mais là aussi qui suppose l'œil d'un mouleur, puisqu'on ne va pas faire la captation de la même manière quand on doit derrière en tirer un moule, et de façon à ce que là aussi les bons repères tombent aux bons endroits. On s'en sert beaucoup pour faire du prototypage, on s'en sert aussi pour les pièces qui sont trop fragiles et sur lesquelles on ne peut pas intervenir directement. Donc ce qui va permettre d'aller chercher d'autres pièces qu'on n'avait pas dans notre répertoire. Donc là, vous voyez la pièce de Canova, par exemple. Je vous montre derrière, ça c'est une aile de la Victoire de Samothrace. Donc en fait, il faut savoir que la Victoire de Samothrace, il reste au Louvre des bacs dans lesquels il y a des petits bouts, qui sont des petits bouts de l'aile. Et petit à petit, parfois, on retrouve un morceau d'aile. Et donc, dans ces cas-là, quand la pièce est restaurée au Louvre, de notre côté, on refait le moule de la Victoire de Samothrace. Et donc, on ne retourne pas, vous imaginez, refaire un moule de la Victoire de Samothrace, c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, on a fait juste l'aile en stéréo, donc à partir d'images 3D, et on a ensuite fait une sorte de Frankenstein avec le moule d'origine qui, par ailleurs, était bien conservé, et on a refait complètement un nouveau moule en croisant ces technologies. De la même manière, donc je vous parlais de la station Louvre-Rivoli, nous avons fait pour la station Louvre-Rivoli le scribe accroupi. Et donc là, c'était une pièce qui était vraiment fragile, sur laquelle on ne pouvait pas intervenir directement. Donc on est passé par cette technologie 3D. Donc vous avez la stéréo. Donc vous savez, donc, c'est derrière une impression 3D. Donc quand on passe le doigt, il y a vraiment beaucoup de stries. Donc on ne peut pas directement faire un moule dessus. Là, la définition est beaucoup moins fine que celle qu'on obtient nous avec nos moules. Donc on a fait un premier tirage. Ce tirage, on l'a surmoulé, on en a fait une sortie. Là, on a repris toute la surface, on a refait un moule, et là, on a ressorti le screen. Et à partir de là, donc je vous montrerai ensuite la dernière étape, ce sont nos patineuses qui ont pris la main, donc qui ont travaillé sur la couleur, de manière à pouvoir avoir le scribe au complet. Et pour tout vous dire, on avait même eu un partenariat avec la Ligue, pour recréer les cristallins des yeux. Et tout ça était l'occasion aussi de pousser de la recherche sur la pièce elle-même. Et donc, voilà, tout ça, c'est un vrai travail de collaboration avec les conservateurs. Je vous glisse aussi une petite incise, parce que donc, je vous ai dit qu'on travaillait plâtre, on travaille de la résine, surtout pour aller en extérieur, qui pouvait être chargée de différentes matières. De la poudre de marbre, des poudres métalliques qu'on peut ou non placer à la flamme, du bronze, de la terre cuite, et on travaille aussi beaucoup pour pousser de nouvelles techniques avec des matériaux recyclés. Donc là aussi, on travaille avec tout un vivier de start-up, qui sont des petites entreprises avec lesquelles on va travailler sur de nouveaux matériaux. Donc là, je vous montre une tête de Modigliani qui va être exposée à partir de la semaine prochaine au Petit Palais, dans l'exposition qui s'appelle « The Art of Making ». et qui est une tête que nous avons fait avec un atelier qui s'appelle Matériaux urbains. Donc je vais, voilà, vous sondez à votre avis en quelle matière est-elle faite, sachant que c'est des matériaux recyclés. Alors elle est faite en marque de café et en mie de pain. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qu'on teste en ce moment. Donc ça donne des matières qui sont teintées dans la masse et qui donnent des effets très, très intéressants et qui souvent sont repris derrière pour accuser les creux et les volumes et donc qui permettent d'avoir là aussi plus de finesse. Je vous ai mis quelques autres exemples. Il y a des choses qu'on fait avec du papier recyclé. Donc là, on vient de réouvrir la boutique du Louvre. On vient de faire une grande Vénus en papier recyclé pour le décor de la boutique. Mais vous avez aussi des choses faites avec des coquilles d'huîtres, du sable de Denain, voilà, donc qui permettent de travailler de la couleur, de travailler des grains différents. On s'en sert aussi beaucoup pour le soclage. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des innovations qu'on pousse au cœur de nos métiers, au quotidien, on travaille ensemble et avec d'autres. Et puis donc je glisse sur un autre des métiers historiques de notre atelier, qui est la patine. Donc là, qui est vraiment l'art du faux. On va venir après avoir fait avoir sorti les pièces des moules et les avoir fait sécher. On a des patineuses qui vont intervenir là pour travailler vraiment la couleur, pour donner toutes les matières possibles et imaginables. Là, vous avez votre nuancier. Donc, on peut aller du porphyre au marbre veiné, en passant par du faux bronze. Voilà. Donc, tout est travaillé et avec plusieurs objectifs. Donc, celui de rendre la couleur, celui de rendre aussi l'usure et le passage du temps. Donc, voilà, on n'est pas quelque chose de trop neuf. De pouvoir aussi travailler les volumes et donc accentuer ou pas les effets de relief. Il y a aussi du travail qui est fait à la feuille d'or. On fait du travail d'upcycling à partir de pièces qui seraient endommagées. Et un petit peu sur les techniques du kintsugi, on va venir recoller des pièces à la feuille d'or. Et là, c'est destiné à nos boutiques. Donc là aussi, c'est des propositions innovantes qui sont poussées par nos ateliers. Donc nos patineuses, elles travaillent sur une technique ancestrale et qui est là aussi pratiquée à peu près uniquement chez nous. Donc elles travaillent à partir d'une technique qui s'apparente au lavis, donc à partir de pigments soit naturels soit artificiels et de la gomme laque qu'on va venir déposer très légèrement en couche et en sous-couche pour avoir cette profondeur et ce fini très sophistiqué donné aux pièces. Et donc de ce fait, comme je vous disais, il y a beaucoup d'artistes qui viennent travailler avec nous. Jeff Koons vient travailler régulièrement avec nous. Donc il avait commencé dans les années 2013-2014. Donc lui, il veut des pièces très très blanches. Donc c'est un travail là aussi conjoint des mouleurs et de la patine. Et puis ensuite, il va venir poser ces petites boules de couleurs. Donc là, je vous montre des travaux plus récents, le gladiateur Borghese. Et en ce moment même, on travaille avec lui sur à partir de l'hermaphrodite endormie. Donc on est en train de créer des pièces avec lui à partir, encore une fois, de cette collection très inspirante et qui continue vraiment d'inspirer les artistes. De la même manière, on a beaucoup travaillé avec un artiste qui s'appelle Daniel Archam. Donc lui qui travaille un petit peu sur la poétique de la ruine. Donc on l'a rencontré à travers le musée Guimet, ça a été la première collaboration. Et ensuite, on a vraiment travaillé très, très longuement avec lui parce qu'il est vraiment tombé amoureux de la collection. Donc c'est quelqu'un qui travaille à la fois avec des matériaux teinté dans la masse. Donc là aussi, ça a été l'occasion pour notre atelier de travailler main dans la main avec son studio pour pousser de nouvelles techniques. Donc là, vous voyez moins bien à l'écran, mais il y a des effets bleutés ou des effets rosés et l'inclusion de cristaux. Donc là aussi, ça a été tout un travail de mise au point avec notre atelier pour pouvoir pousser ces nouvelles propositions. Et enfin, d'autres axes sur lesquels nous travaillons beaucoup, c'est le développement des collaborations avec les architectes et les designers pour pouvoir, là aussi, grâce à des techniques qui sont déployées chez nous, donc notamment le stuc et le staff, donc qui sont là aussi des techniques traditionnelles, mais qui s'adaptent beaucoup au travail des designers contemporains qui cherchent justement à aller beaucoup plus vers ces matières naturelles, à enlever tout ce qui est plastique. Donc là, je vous montre un exemple. On avait travaillé avec Philippe Kramer et Emmanuel Levestein pour le salon Révélation l'année dernière. Donc c'était le stand qu'on avait montré avec eux. Donc travail sur des sellettes avec Emmanuel Levestein et avec Philippe Kramer Donc c'est grands oculus lumineux, donc qui sont dans des bases de plâtre, et puis la couleur changée un petit peu au fil des heures de la journée, et donc qui crée un travail très lumineux. Et on avait travaillé toute la scénographie avec les ateliers, avec ces grandes alcôves en plâtre. Là vous voyez Samy Bellamer, qui est l'artisan qui avait travaillé sur tout ce projet, et puis donc vraiment tout ce qui est à l'origine de ces développements en design, le travail sur le stuc, le staff et le plâtre. Je glisse à notre autre atelier, qui est l'atelier de calcographie. Donc là, un atelier qui est né exactement dans les mêmes années, en 1797, même si la collection à l'origine de cet atelier est une collection plus ancienne. Donc calcographie, c'est un nom un petit peu barbare, ça vient de calco cuivre, puisque donc c'est un atelier d'impression d'estampes et qui travaille à partir des matrices de cuivre qui sont gravées. Ces plaques appartiennent aux collections du Louvre, sont inventoriées dans les collections du Louvre, et elles sont déposées chez nous et nous en assurons l'exploitation, et donc nous savons faire les tirages de ces plaques qui peuvent être des plaques très anciennes jusqu'à nos jours. Alors on n'imprime plus que à peu près la moitié du corpus, il y a à peu près 14 000 plaques, et pour des raisons de conservation on n'imprime plus les plaques d'avant 1850, mais c'est une collection qui est très vivante, et vous allez le voir, on continue de l'enrichir tous les jours. Donc là aussi, ce sont vraiment des métiers devenus rares, et donc on a vraiment à cœur de perpétuer l'entretien de ces métiers. Il faut savoir que nos ateliers sont entreprises du patrimoine vivant, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Et donc là, vous voyez à l'écran Bertrand Dupré, qui est notre chef d'atelier, et Lucille Van Stevel, qui est une des imprimeurs taille doucière, c'est comme ça qu'on les appelle. Et Bertrand et Lucille ont été distingués par le dispositif maître d'art, donc qui est, permet de distinguer des artisans à peu près tous les 3 ans. Donc ils ont été parmi les 8 retenus, donc qui est un petit peu l'équivalent des trésors vivants au Japon. Et donc sur la base d'un projet de recherche, aussi bien projet de recherche pratique, appliqué que théorique. Et donc ils ont choisi de travailler sur la couleur dans la calcographie. Là vous les voyez tirer une plaque de Villon, donc Villon le frère de Marcel Duchamp, qui avait travaillé avec des artistes soit contemporains, soit du 19e, pour créer des estampes en couleur à partir de plaques gravées et non pas à partir de lithographie, donc une technique beaucoup plus complexe. Et donc on avait perdu la connaissance pour pouvoir imprimer ce type de plaque. Et donc pendant 3 ans, Lucille et Bertrand ont travaillé sur ce sujet pour pouvoir réinitier ce type de pratique. Et je vous dirai pourquoi c'est intéressant, parce que là aussi il y a du travail avec des artistes contemporains qui travaillent beaucoup la couleur, et donc ça nous a aussi permis de pousser les lignes. Il faut savoir que donc ils sont en train de terminer ce travail. C'est un travail qui a beaucoup intéressé le CNRS, donc on va continuer à travailler avec le CNRS, notamment au travers des sujets disques de Chevreul, dont on va faire un tirage ce printemps pour l'exposition In Mafeking, donc vous pourrez découvrir ça. Donc dans le fond de la collection, on a des choses vraiment très classiques, donc de la gravure d'interprétation, puisque la calcographie du Louvre, à l'heure de la naissance des musées, était un petit peu l'ancêtre de la carte postale quand la photographie n'existait pas encore, donc ça permettait de diffuser les grandes icônes, la Joconde, etc. Donc là, vous voyez des choses d'après Rubens. Par rapport aux ancêtres de la photographie, là, vous voyez des choses qui sont en héliogravure, donc à la fois de l'héliogravure ancienne et de l'héliogravure pratiquement contemporaine, puisque ce que vous avez, donc l'aile, ça s'appelle la robe de la fiancée, c'est une œuvre de Burckhardt, qui est donc une recréation contemporaine. Et puis, je vous montre effectivement tout ce travail sur la couleur que j'énonçais en préambule. Donc il faut savoir que nos artisans, donc, qui sont des imprimeurs taille-doucier, sont aussi graveurs, et donc on mène tout un travail d'enrichissement de la collection avec le Louvre en passant des commandes à des artistes contemporains. Donc on passe une à deux commandes par an, donc c'est le Louvre qui passe la commande, et ensuite ce sont nos ateliers qui travaillent avec les artistes pour les initier à la gravure. Donc on choisit des artistes qui ont de l'appétence pour la gravure et qui ont peut-être les premières bases, et ensuite ils vont créer un projet, créer un dessin, et c'est vraiment nos artisans qui vont les accompagner dans le choix des techniques qui vont être le plus appropriées pour traduire leur projet. Et donc pour nous, ce qui est important dans ce cadre-là, c'est vraiment de continuer à déployer toute la palette des techniques de la gravure pour pouvoir les enrichir et être dans ce frottement entre l'artiste et l'artisan qui crée vraiment des échanges très très enrichissants et très riches. Donc je vous ai mis Eva Jospin, donc, qui est une gravure qui a été créée en 2017 parce qu'il y a l'actualité en ce moment au Grand Palais, son exposition. Donc voilà, son estampe qui était liée à la grotte, sachant que l'exposition qu'elle présente en ce moment au Grand Palais s'appelle Grotesco. Donc ça a été vraiment une expérience magnifique de travailler avec Eva. Et donc dans ce travail sur le fait de creuser une plaque, il y a quelque chose qui se rapproche du travail qu'elle fait avec le carton. Donc pour elle, vraiment, ça enrichit une expérience. Et puis je vous ai mis un autre exemple qui est l'exemple de Jean-Michel Autoniel, donc lui qui était aussi intervenu au Louvre dans le cadre des 30 ans de la pyramide, et donc on a créé avec lui la Rose du Louvre. Alors il faut savoir que ces estampes, voilà, elles ne sont ni numérotées ni signées, et elles sont proposées dans un prix de vente public relativement accessible, dans une volonté de démocratisation et de diffusion de l'art qui est vraiment portée avec le Louvre. Dans le cas de l'estampe de Jean-Michel Autoniel, nous avons fait deux versions. Nous avons fait une version classique imprimée sur un papier blanc, qui est des, voilà, non numérotée, non signée. Et puis nous avons fait une série limitée, qui est imprimée donc, sur un papier japon argenté, et qui est ensuite contrecollée sur un papier blanc. Donc là, vous voyez voilà, Lucille, qui est en train de travailler avec Jean-Michel Autoniel. Vous voyez sa plaque, et vous avez à côté le tirage. Voilà, donc j'en arrive au terme de cette présentation. Ce que je voulais dire, donc, encore une fois, pour nous, c'est très important de montrer nos métiers, donc de les montrer à travers différentes modalités. Donc, comme je vous disais, on a beaucoup travaillé sur nos sites internet. Donc, on vient de sortir une nouvelle version de notre site en ayant beaucoup documenté, photographiquement parlant, nos métiers à l'œuvre, puisque c'est important de découvrir les coulisses. Quand on voit les choses en boutique, on ne se rend pas forcément compte de tout voilà, le travail de la main qu'il peut y avoir derrière, de la recherche, etc. Donc c'est important aussi pour nous de le documenter. Je vous encourage à aller voir notre site parce qu'on y parle beaucoup de nos métiers, et donc on a un fil d'actualité qui est nourri très régulièrement, donc un blog, avec des entretiens qui sont menés très régulièrement au fil des projets avec ceux qui font les projets, donc les artisans, les artistes, nos collègues des musées, et on croise beaucoup les lignes, donc on a vraiment à cœur cette documentation-là. Et puis derrière ce travail, on croise bien sûr avec les réseaux sociaux. Comme je vous disais, on est sur des activités qui sont pas forcément très connu. Donc on avait travaillé derrière aussi sur comment on faisait monter du référencement sur nos sites internet, en travaillant sur toute une cartographie du vocabulaire, comment on nous appelle, comment on nous trouve, comment on nous source. Donc ça, c'est pas visible sur nos sites internet, mais c'est vraiment toute la structure de base sur laquelle on a travaillé pour faire monter du référencement. Et c'était un travail très, très, très enrichissant, très intéressant. Et puis vous pouvez venir bien sûr visiter nos ateliers, on organise régulièrement des visites. L'Office du tourisme de Saint-Denis fait une visite à peu près une fois par mois. On est ouvert pendant les journées du patrimoine, journées des métiers d'art. Et puis on est présent sur différents salons. Je vous ai parlé de l'exposition qui ouvre la semaine prochaine. On a par exemple été présent aussi donc à Osaka, à l'international, sur le stand du pavillon France à l'occasion de l'exposition universelle. Et ça donne maintenant lieu à une itinérance d'exposition qui est ailleurs au Japon, avec un nouveau lieu qui a été ouvert par la fondation Toyota, qui s'appelle le Move On. Et donc à cette occasion-là, on va encore une fois pousser les sujets recherche et développement, puisqu'ils ont inventé un nouveau matériau à partir de recyclage de leurs usines automobiles, et on est en train de mener un travail avec eux pour essayer de voir si on ne peut pas recycler et travailler avec eux. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous dire que tout est dans tout, et que ces savoir-faire très traditionnels sont en mutation constante et s'enrichissent en permanence de ces interactions avec tout ce tissu que je viens de décrire. Voilà, merci.
Merci beaucoup Madame Laporte, merci aussi d'avoir tenu parfaitement le temps. Alors, c'était un vrai bonheur, j'ai pu écouter tout ce que vous disiez sans regarder la montre, merci beaucoup. Alors je vais commencer par un... Oui, il y a un signe. Bon, ça veut dire qu'il faut... Avancer, ah oui, on peut avancer. Et encore avancer.
Voilà.
Merci. Merci, c'est vrai, c'est une boucle. Donc je vais commencer par un jeu de mots. Donc j'ai appris en ces périodes de géo d'hiver qu'il y avait des patineuses artistiques aussi chez vous. Ce n'est pas ça le fond de ma question. Donc je vais ouvrir les questions à la salle. Et donc, comme je dis toujours aux étudiants, moi je suis payé pour poser des questions, mais vous non. Les vôtres n'en ont donc que plus de valeur. Oui.
Alors, est-ce que normalement, merci. Alors, il n'est pas très très long, donc.
Vous rapprocherez. Vous ça va, mais s'il y a des intervenants.
Bonjour. Déjà, merci pour votre présentation. Vous avez mis l'accent sur les innovations numériques pour la préservation de l'atelier des villages, mais vous n'en avez pas parlé forcément pour l'atelier de calcographie. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas?
Alors, assez peu. Là, on est vraiment beaucoup plus sur du travail plus traditionnel, hormis le travail avec les artistes contemporains. Ensuite, on pourrait se poser la question, quand je vous ai dit qu'on n'imprimait plus les plaques anciennes, là on est dans l'industrie du l'artisanat du multiple, c'est ce qui relie d'ailleurs ces deux ateliers. On a néanmoins, donc ce sont des plaques de cuivre et qui sont protégées avec une fine couche d'acier. Pour les plaques qui étaient le plus utilisées, on avait fait ce qu'on appelait des galvanoplasties, donc qui sont des sortes de moules et de duplications de ces plaques anciennes, et donc on peut quand même en imprimer certaines. Mais on pourrait se dire, avec la 3D, pourquoi on n'appliquerait pas ce type de... Mais comme je vous disais, pour le moment, la 3D n'était pas encore au degré de finesse suffisant, même pour le moulage, pour pouvoir tout faire, ou en tout cas ça suppose derrière de pouvoir reprendre les choses. On n'en est pas encore à ce stade du côté, par exemple, des plaques. On a, par exemple, fait des tests, aussi bien sur la 3D que derrière, sur des impressions 3D, avec des machines d'impression dédiées à la joaillerie pour essayer de faire des choses vraiment très très fines, mais ça fait vraiment des toutes petites pièces pour le moment, donc on s'en est servi pour faire des prototypes, mais c'est pas encore assez mûr pour pouvoir aller sur nos sujets, et il faudrait que ça ait aussi une réalité économique qui nous permette d'avoir des débouchés suffisants, parce que ce sont tout ça des choses qui sont très coûteuses. Autant du côté du moulage, on a derrière une économie et des commandes qui nous permettent d'aller sur ce terrain-là, autant c'est plus difficile du côté de la calcographie.
Le verrou est passé le micro.
Attention au fil. Et aux têtes.
Oui,
c'est plus simple parce qu'il y a aussi les pieds là, la caméra, ça me fait peur. Voilà.
On arrive au bout là.
C'est parfait.
Parlez plus fort.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais justement, quand vous avez parlé de surtout par rapport au moulage, mais pas pour la photographie, de l'importance pour la conservation préventive, etc. Dans ces cas-là, quand on va dans un musée, comment on est certain de savoir s'il y a la réplique originale ou si c'est un moulage? Non pas que le moulage ne soit pas intéressant à voir, ou au contraire, bien évidemment, on a compris pourquoi. C'est une question que je me pose aussi de par le fait que j'ai été à différents musées où j'ai vu la même œuvre.
Oui.
Et initialement, je pensais que c'est dans ce musée-là et je suis allée à un autre musée. Cette notion-là.
Alors, ce qui est important de dire, c'est que ce sont des reproductions, ce ne sont pas des copies. Donc on est allé directement sur l'original et derrière, il y a quelque chose qui en est sorti. Il faut aussi relier ça à qu'est-ce que c'est que de la sculpture. La sculpture, il y a très peu, entre guillemets, d'original. Alors, il faudrait débattre sur quel est l'original. Il n'y avait pas un seul artiste. L'artiste avec un grand A qui travaillait avec un studio, avec un atelier. C'était souvent des œuvres de collaboration, donc on pouvait dire qu'il y avait l'âme, le modèle premier, et ensuite le travail directement sur la matière qui était fait aussi avec des collaborateurs. Il y a à peu près que Michel-Ange qui sculptait seul et en direct. Donc c'est aussi pour recontextualiser tout ça. Et quand il y avait une pièce qui sortait, très souvent, il y avait aussi l'atelier qui faisait d'autres pièces qui étaient elles-mêmes reproduites. De la même manière que vous avez des antilles qui ont été largement complétées à un moment donné où c'était la mode de rajouter des bras. Donc voilà, donc il peut se trouver d'ailleurs qu'on ait des pièces qui sont conservées à Versailles, qui sont des antiques, pour lesquels Girardon au XVIIe siècle avait rajouté des bras. Girardon est un sculpteur majeur. On peut se dire, ben, où est-ce qu'on va dans la dérestauration et la présentation de... Voilà, donc c'est pour relativiser aussi cette question de l'original. Après, normalement, vous avez des cartels qui doivent être bien faits et donc qui peuvent vous dire ce qu'il en est. Et puis ensuite, nous, nos pièces ont une estampille qui aussi nous permet d'ailleurs voilà, d'avoir des datations sur l'ancienneté des moulages. Et donc, ils permettent de dire, voilà, là, vous êtes dans un moulage. Et certains de ces moulages sont des moulages anciens et ont en eux-mêmes une valeur parce qu'ils ont constitué des collections des musées. Donc, vous avez ce qu'on appelle des gypsothèques. Vous en avez la gypsothèque du Louvre, qui est d'ailleurs conservée dans les bâtiments de Versailles, qui, voilà, a aussi valeur. Il y avait des artistes pour lesquels le travail du plâtre était vraiment primordial. Rodin, par exemple, pour lequel vraiment le plâtre était, on va dire, la valeur première. Le bronze est venu après, et là, il y avait l'atelier qui intervenait, puisque couler un bronze, ben voilà, ça se fait avec tout un atelier de fonderie derrière, et on est dans ce domaine du multiple également, même si du côté de Rodin, il y a une quantité prévue au départ pour chaque pièce. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais voilà.
Oui, encore une dernière question au fond de la salle. Alors, il faudrait peut-être que vous vous déplaciez. Oui. Question d'une collègue à une autre collègue, j'ai l'impression.
Je voulais savoir quelles sont les limites que vous aviez rencontrées dans la captation 3D des sculptures, à la fois des limites liées évidemment à la conservation et... mais aussi aux matériaux éventuels, métal, etc. Et si vous travaillez avec des laboratoires de recherche sur ce sujet.
Alors, je ne vais pas être la mieux placée pour vous répondre, sachant qu'on travaille beaucoup avec l'agence photo, donc aussi...
La complémentarité.
Exactement.
Deuxième question,
exactement.
C'est la complémentarité entre la captation, je dirais pour la conservation et la reproduction, et la captation pour la diffusion qui ne sont pas forcément
exactement,
les mêmes modèles.
Exactement. Et donc c'est pour ça que je précisais bien que c'était intéressant d'avoir cette complémentarité des compétences, puisqu'on a l'œil des mouleurs qui vont aller chercher autre chose et donc qui vont travailler main dans la main avec des photographes à la base. Hein. Mais c'est vrai qu'on travaille aussi avec d'autres entreprises. Et donc pour nous... si vous voulez, il y a le travail avec les musées, la base d'une commande qui va être l'occasion de pousser de la recherche, de la réflexion. On est en quelque sorte un laboratoire, mais appliqué. Donc c'est en fonction des rencontres et des sujets qu'on rencontre qu'on va pousser les développements. Alors pour le moment, on n'a pas eu le cas de travail sur des métaux. Ça ne s'est pas encore présenté. Mais il y a du travail qu'on peut faire, par exemple, sur des sujets de médiation. Où on va nous demander de refaire justement à partir de 3D des parois et on va compléter avec de la patine pour pouvoir donner... Voilà, donc c'est, là aussi on joue de la complémentarité. Et puis par rapport au distinguo que vous faisiez, il y a le travail qu'on va pouvoir faire pour les reproductions à l'échelle et notamment pour ces enjeux de substitution. Et puis ensuite, il y a les déclinaisons qu'on va pouvoir souhaiter faire pour les mettre à disposition du grand public, puisque la 3D permet aussi d'avoir des agrandissements, des réductions. Et donc, je vous montrais un exemple du Canova, par exemple, ou de l'hermaphrodite endormi. Et c'est des pièces, donc le Canova, le baiser de Canova, on l'a proposé en réduction grâce à la 3D. Et on projette de proposer bientôt une réduction de l'hermaphrodite endormi. Donc, effectivement, les destinations ne sont pas les mêmes. Et comme je vous disais, comme les degrés de définition ne sont pas non plus exactement les mêmes, il y a tout ce travail intermédiaire qu'on est en train de pousser et on en prend connaissance au fur et à mesure qu'on travaille sur les sujets.
Moi, pardon, je voudrais poser une toute petite
oui,
question.
Oui, alors ben, j'ai le micro là, comme ça, oui, en passant par là. Et comme ça, il fait là, c'est parfait.
Oui, merci beaucoup. C'était passionnant. Moi, je voudrais juste savoir, puisque vous avez parlé donc du Japon, Mais bon, c'est un pavillon français. Je voudrais savoir si vous, s'il y a des demandes d'exportation de votre expertise.
Oui. Alors, on travaille beaucoup à l'international, par les artistes déjà, mais on travaille aussi beaucoup par l'international. Par exemple, on a eu beaucoup de commandes des écoles d'art chinoises. Donc on a plus de 200 moulages répartis dans les différentes écoles d'art chinoises, et c'est des demandes qui viennent très régulièrement. Donc c'est intéressant, c'est que c'est le même processus qui était à l'œuvre à la naissance, en gros, des ateliers pour le Louvre et l'éducation et l'école du dessin, on va dire, des aspirants artistes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils nous commandent. Donc on a des pièces vraiment très très classiques, des antiques, Michel-Ange, et donc ils reconstituent comme ça les bases de la sculpture universelle, internationale. Et donc il y a ce type d'échange. Comme je disais, il y a aussi des sujets de médiation, donc ça nous arrive également de travailler avec des universités à l'international. On a travaillé avec le Canada, par exemple, pour créer des ateliers de médiation ou des galeries tactiles, voilà, pour pouvoir travailler sur les sujets d'accessibilité à ces collections de sculptures.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Laporte.